et d'une entreprise. Et ce discours sur la compétitivité participe justement de cette mode managériale, c'est-à-dire que les hommes politiques s'inspirent de ce qui se passe dans les entreprises pour administrer des territoires. Or, passer de l'un à l'autre pose toutes sortes de problèmes, et cette transposition, effectivement, permet également de mettre en doute la pertinence de ce discours sur la compétitivité et des mesures qui l'accompagnent.
Dans le mot compétitivité, c'est la compétition. Et voilà, l'équipe France, nous tous, on doit être une équipe qui gagne par rapport à ceux qui... l'autre camp, quoi, les autres équipes.
C'est vrai que c'est très intéressant, cette dimension équipe. Et d'ailleurs, on peut se demander dans quelle mesure ce discours sur la compétitivité n'est pas une nouvelle forme du patriotisme économique. C'est-à-dire le patriotisme, le nationalisme économique, s'est traditionnellement manifesté à travers l'histoire par un État fort, par du protectionnisme, par des subventions, par des politiques qui aujourd'hui sont condamnées par la logique de l'OMC et de l'Union européenne. Et donc, ce discours sur la compétitivité, c'est selon moi un patriotisme économique de substitution, mais qui en reste malheureusement énormément au niveau du discours. Parce que d'une part, les mesures pour la compétitivité sont loin d'aller dans le sens d'un intérêt national ou d'un intérêt majoritaire. Et puis en plus, c'est un slogan, c'est un discours qui souvent a du mal à se concrétiser dans de réelles politiques, contrairement au nationalisme économique tel qu'on l'a connu en France avec Colbert ou à d'autres époques, ou avec un État fort, un territoire protégé par des frontières, une stratégie économique, on avait effectivement de la consistance derrière le discours patriotique.
Ce que vous dites aussi, c'est que cette gestion managériale que suggère ce mot de compétitivité, cette gestion managériale à l'échelle d'un pays, d'une nation, d'un territoire, selon votre langage, ça évacue la culture, ça évacue tout le reste. Ça évacue la mémoire, la culture, l'histoire. Tout ça, ça devient des choses secondaires. Ce qui compte, c'est l'économie.
Oui, c'est-à-dire que le territoire tel qu'il est envisagé par les géographes et également tel qu'il est envisagé dans les sciences politiques est une entité, un espace borné par des frontières auquel on associe bien d'autres choses que de l'économie. Et d'ailleurs, l'économie est un vecteur d'identité très secondaire dans un territoire qui va s'identifier essentiellement à une histoire, éventuellement à des marqueurs culturels, religieux, à des marqueurs également idéologiques, où un territoire va s'identifier à un système politique, qui peut être la démocratie, qui peut être un autre système. Donc le territoire, c'est quelque chose qui va même avoir une dimension identitaire et affective. Et il est vrai qu'avec le discours sur la compétitivité des territoires, on évacue dans le discours ce qui fait finalement la consistance d'un territoire pour privilégier uniquement des paramètres économiques et financiers, des paramètres de coût. Et donc c'est une vision assez réductrice finalement de ce qu'est un territoire, notamment pour les géographes.
Compétitivité.
On continue avec le diplôme. Je suis très content de retrouver Henriette Asseo, qui est chercheuse et qui s'intéresse depuis de nombreuses années à la question des Roms et des Tziganes. Elle me regarde avec des gros yeux en disant « Non, on ne dit pas Roms, on doit dire Tziganes ». Et ce que vous vous évertuez à dire, Henriette, depuis des années et des années, à chaque fois qu'on vous pose, que vous abordez ce sujet, c'est de dire « Les Tziganes ne sont pas nomades ». Et ils sont vraiment enfermés derrière cette image romanesque, romantique, qui parfois ils s'appliquent à eux-mêmes. Eux-mêmes se voient Tziganes et se vivent Tziganes, alors que vous dites « Non, ils ne sont pas nomades. »
Effectivement, les Tziganes. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on appelle Tziganes? C'est l'ensemble des populations au caractère culturel, romani, qui se trouvent dans les pays européens depuis la nuit des temps, c'est-à-dire depuis la constitution des sociétés européennes proprement dites. Ce n'est pas un peuple nomade qui serait arrivé du fin fond des Indes pour se répandre en Europe. C'est un peuple constitutif des sociétés européennes qui venait des États grecs, des bassins gréco-balkaniques, médiévaux, et qui effectivement, comme les autres Grecs, ont été contraints à quitter ces territoires qui ont été submergés par la vague ottomane et à se ré-